Et on commence donc ce journal avec les grands titres. À Manchester, la vie reprend son cours petit à petit après l'attentat suicide de cette semaine. Pendant ce temps, l'enquête avance à grands pas. Donald Trump est en Belgique et a été accueilli par un large comité de manifestation. Et en Iran, apparemment, on aurait prévenu l'Australie du caractère dangereux de l'homme qui a fait la prise d'otage meurtrière au café Lindt de Sydney. Nous débutons donc ce journal au Royaume-Uni. Après l'attentat de Manchester, l'alerte maximale a été déclenchée et l'enquête se focalise sur un réseau de personnes à l'origine du drame. D'après le chef de la police de Manchester, l'enquête avance rapidement. Jusqu'ici, 9 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête, dont le père et le frère du kamikaze qui ont été arrêtés, eux, en Libye. Sur place, l'émotion reste forte, même si la vie reprend peu à peu son cours. Anastasia Becchio.
D'un pas pressé, les mancuniens vont au travail. Un homme en veste fluo traîne une grosse boîte à outils. Arunas, arrivé de Lituanie il y a 2 ans, travaille sur un chantier tout près du lieu de l'attentat.
Hier, j'étais en route quand on m'a appelé pour me dire de faire demi-tour, car on ne pouvait pas accéder au chantier. Toute la zone était bouclée par la police. Aujourd'hui, on reprend le travail avec un sentiment étrange. Tout le monde a en tête ces 22 personnes qui sont mortes. C'est triste.
À la gare routière, les autobus ont repris du service. Teddy, employé de bureau, va pouvoir aller travailler.
Aujourd'hui, ça va être plus facile. J'ai un bus. Hier, tout était fermé ici parce que de nombreux bus ont dû changer d'itinéraire. Tout le monde repart au travail pour que la vie reprenne son cours normal.
Violoncelle sur le dos, Julia Tedz marche vers son conservatoire avec un sentiment étrange.
On ne peut jamais prévoir ce qui va se passer, qui va être pris pour cible, mais on ne peut pas vivre dans la peur. On ne peut pas laisser les gens qui ont choisi de commettre des crimes haineux prendre le contrôle de notre vie. Bien sûr, il y a toujours cette peur que la ville va encore être prise pour cible, mais il faut continuer à vivre normalement.
Avant d'aller faire ses gammes, Julia fera un petit détour par la mairie pour y déposer un bouquet en mémoire des victimes.
Et c'était Anastasia Becchio, donc à Manchester pour RFI. Je vous le disais il y a quelques instants, la Grande-Bretagne est donc passée à son niveau d'alerte le plus haut. Des militaires ont remplacé les policiers devant certains bâtiments publics, ce qui permet à ces policiers d'être déployés ailleurs. On écoute la chef de la police londonienne, Chrissy Daddick.
There are a number of unknowns since the attack. A huge number of inquiries. The officers in the counter-terrorism network in Manchester and beyond are working incredibly fast. And whilst we're at critical, and there is the possibility of a further attack, we want to be able to support the public as best we can and to protect them as best we can. And we believe we need more armed officers on the streets.
Voilà, donc la chef de la police londonienne, Chrissy Daddick. De son côté, l'Australie a annoncé qu'aucune des victimes n'était australienne, contrairement à certaines rumeurs. On écoute l'attorney général John Brandis.
And we can confirm that there were no Australians among the dead. And so far as we are aware, there are no Australians among those who are injured.
L'attorney général George Brandis, de son côté, le premier ministre par intérim, l'adjoint premier ministre, Barnaby Joyce, est revenu sur cette attaque et demande aux Australiens de réfléchir aux valeurs australiennes en ces moments difficiles. On écoute Barnaby Joyce.
We believe that you can have your beliefs, but leave other people alone and to have theirs. If other people don't try and change the world by violence, change the world by argument, change the world by cogent argument, if that's what you have. But you know, with these individuals, they're murderers. They have decided that the way they're going to try and affect the world is to murder people. And let's remember, Kieran, these people have always been around, and every religion has them at their peripheries.
Voilà donc Barnaby Joyce. Ils étaient des milliers à manifester à Bruxelles contre la venue de Donald Trump. Le président américain doit rencontrer les représentants de l'Union européenne ainsi que participer à une réunion de l'OTAN demain. On écoute le reportage de l'Axe Milota.
Des manifestants déguisés en statue de la liberté, d'autres soulevant des marionnettes géantes à l'effigie du président américain et du premier ministre belge, des femmes portant le fameux bonnet de chat rose contre le sexisme et d'autres vêtues du drapeau de la paix, tous sont venus avec un message pour Donald Trump.
On lui dit allez-vous-en, on veut un pays qui ne veut pas être raciste, qui ne veut pas être sexiste, qui ne veut pas discriminer les gens.
J'ai un panneau qui dit « Stop Trump ».
Parce que Trump, il nous emmerde un peu les femmes quand même. Hein.
Écoutez, il y avait le ministre de commerce qui avait dit « Ah, c'est super, l'Arabie Saoudite, il n'y avait pas de gens qui protestaient. » Ici, il y en a. Hein.
Il écrit « No racisme, no sexisme, no Trump. »
Va-t'en, Satan. Habillée en statue de la liberté, Sarah Goffin d'Amnesty International.
On voudrait en fait montrer à Donald Trump ce que représente réellement la statue de la liberté, donc la défense des droits humains, la liberté, toutes les valeurs que défend aussi Amnesty International.
Certains sont aussi venus dénoncer la course à l'armement, alors que le président américain participera à une réunion de l'OTAN ce jeudi.
Et voilà, donc l'axe Milota depuis Bruxelles pour RFI. 13h06 en Australie maintenant. Et les rendus de l'enquête sur le fonctionnement de la police et de la justice autour de la prise d'otage du café Lindt de Sydney. Après 18 mois d'enquête, la justice est en train d'énumérer les fonctionnements et dysfonctionnements autour de ce qui s'est passé dans et aux alentours du café ce matin-là. Apparemment, le bureau du sénateur Brandis aurait reçu une lettre de l'assaillant 2 mois avant l'attaque. On écoute la réaction de George Brandis.
Any deficiency in the Attorney General's Department's correspondence handling practices was corrected in 2015 when the Monis correspondence did come to light. I asked my department to initiate a much more rigorous correspondence handling procedure, which they did, and so that issue has been dealt with.
Voilà, donc George Brandis. De son côté, l'ambassadeur iranien en Australie a déclaré que Téhéran avait prévenu l'Australie du caractère violent de Man Aaron Monis, l'assaillant du café Lindt. On écoute l'ambassadeur, donc il déclare que l'Iran avait même demandé son extradition.
If we could repatriate that person from Australia to Iran under any circumstances, under any rules and regulations that we can bound it, but if we could do that, I believe that this tragedy could be prevented.
Donc l'ambassadeur iranien en Australie. Que s'est-il passé à Jakarta en Indonésie cette nuit? Un policier a été tué alors que 2 explosions ont été entendues dans un dépôt de bus. Il y a également 5 blessés. La police évoque un attentat suicide. Le point avec Christophe Paget.
Les bombes ont explosé l'une après l'autre à 10 minutes d'intervalle vers 21h heure locale, 14h TU, dans un terminal de bus de l'est de Jakarta. L'auteur de l'attentat n'a pas encore été identifié. Pas de revendication pour le moment. Après les attaques de Bali qui avaient fait plus de 200 morts en 2002, les autorités indonésiennes avaient lancé une grande offensive contre les réseaux islamistes et particulièrement la Jemaah Islamiyah, réputée proche d'Al-Qaïda et à laquelle avaient été attribués ces attentats. Ce qui avait, selon les experts, affaibli ces réseaux islamistes. Mais dernièrement, le groupe État islamique semble avoir remobilisé les extrémistes. En janvier 2015, 4 civils avaient été tués dans une attaque à l'explosif et à l'arme automatique revendiquée par l'EI. Et les autorités affirment avoir déjoué en 2016 15 attaques terroristes. Une recrudescence des risques d'attentats qui intervient alors que ces derniers mois, les islamistes les plus durs ont donné de la voix dans un pays pourtant connu pour sa tolérance religieuse en organisant de gigantesques manifestations contre le gouverneur chrétien de Jakarta accusé de blasphème. Le gouverneur qui n'a pas été réélu et a été condamné à 10 ans de prison.
Un reportage de Christophe Paget pour RFI. 13h09 en France. Maintenant, premier couac de la présidence Macron. Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires, aurait loué des locaux à l'entreprise de sa femme alors qu'il était à la tête de la Mutuelle de Bretagne en 2011. C'est ce qu'affirme en tout cas le Canard Enchaîné, le journal français. Le Parti des Républicains va porter plainte. On écoute Bernard Accoyer, le secrétaire général des Républicains.
Nous souhaitons que toute la vérité soit faite sur des faits qui, à l'évidence, évoquent un enrichissement personnel, des manœuvres à l'intérieur d'une mutuelle qui mérite d'être vérifiée sur le plan de l'égalité. C'est bien pour cette raison que nous demandons et nous allons saisir le procureur de la République.
Voilà donc Bernard Accoyer, le secrétaire général des Républicains. Les similitudes avec l'affaire Fillon ne s'arrêtent pas là. Richard Ferrand aurait également employé son fils comme assistant parlementaire sur une période de quelques mois. On écoute Richard Ferrand, c'était sur France Info.
Parce que c'est un peu au débotté que j'avais besoin d'un coup de main à ce moment-là. Mon fils était disponible, donc je lui ai demandé s'il pouvait pendant 3 ou 4 mois venir travailler. J'insiste sur ce mot.
C'était quoi les critères? C'était quoi la fiche de poste?
Ensuite, si vous permettez, il a été rémunéré au SMIC. Je tiens aussi à vous le préciser. Donc, ce qu'il a eu à faire était la rédaction de la lettre du député, tenir différentes choses sur mon blog que j'édite quasi quotidiennement parce que je veux rendre compte de ce que je fais. Et il se trouve que mes collaborateurs habituels étaient totalement investis sur autre chose. Cela étant, et compte tenu des événements plus douloureux qui ont eu lieu ces derniers mois, si c'était à refaire, je ne le referais pas.
Là, il y a des regrets, a posteriori.
Sur l'embauche de mon fils, oui, puisque je vois bien qu'aujourd'hui, il y a un rejet total de l'idée qu'un parlementaire puisse embaucher un de ses proches.
Voilà donc Richard Ferrand sur RFI. Un mot de sport pour conclure ce journal. Et après le drame de Manchester ces derniers jours, eh bien un peu de bonheur peut-être pour les Mancuniens si cela est possible. Les Red Devils ont gagné hier la Coupe d'Europe face à l'Ajax d'Amsterdam sur le score de 2-0. C'est la Coupe Europa. Le buteur français Paul Pogba a dédié son but à son père, décédé dans la semaine, ainsi qu'à la population de Manchester. On l'écoute.
He trained me with my brothers. Today, the victory is for him. It's for the people in Manchester too. So I dedicate them for those people.
Voilà donc Paul Pogba, le français vainqueur de la Coupe Europa avec Manchester United. Le coup d'œil météo pour aujourd'hui à travers le pays. À Perth, il fera 22 degrés. Adélaïde, 20 degrés. Melbourne, 18. Hobart, 16. Canberra, 15. Sydney, 20 degrés. Brisbane, 25. Cairns, 28. Et Darwin, un très agréable 33 degrés. Un rappel des grands titres pour aujourd'hui. Le titre principal à Manchester, la vie reprend son cours petit à petit après l'attentat suicide de cette semaine. Pendant ce temps, l'enquête avance à grands pas. Donald Trump est en Belgique. Il a été accueilli par une large manifestation. L'Iran aurait prévenu l'Australie du caractère dangereux de l'homme qui a fait la prise d'otage meurtrière au café de Lindt à Sydney.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench